Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Bonsoir Thomas, salut à vous les curieux. On est ensemble jusqu'à 22h avec un sommaire qui promet encore d'être passionnant ce soir.
Vous êtes peut-être dans les embouteillages, si ça peut vous rassurer. Il y en avait déjà en 1900 dans les rues de Paris. Et qui les provoquait, les chevaux évidemment. On vous raconte tout ce que le cheval a changé dans la vie des Français à l'occasion du salon qui se tient jusqu'à dimanche prochain à Paris.
Voyants, guérisseurs, sourciers ou encore coupeurs de feu, on a tous été plus ou moins en contact avec un phénomène paranormal. Et la question qui nous taraude, c'est toujours un peu la même. Est-ce qu'on se fait avoir? Est-ce que c'est une hallucination? Ou bien est-ce que certaines personnes, par exemple, ont de vrais dons? Eh bien, figurez-vous que la science s'y intéresse et va nous apporter quelques réponses ce soir.
En Nouvelle-Zélande, à Auckland, les faux époux Turange, les fameux agents français Alain Maffart et Dominique Prieur, ont été condamnés la nuit dernière, chacun à 10 ans de prison. Ils plaidaient coupables d'homicide involontaire et de sabotage à la suite de l'explosion qui a détruit le Rainbow Warrior.
Et on vous raconte un siècle d'espionnage ce soir sur RTL avec notre invité Renaud Tomaso, historien, éditeur. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Les époux Turange, c'est un peu les pieds nickelés de l'espionnage, on peut dire ça ?
Eux et toute l'équipe qui était avec eux, oui, c'est peut-être l'opération la plus célèbre. Et effectivement, il y a eu un côté pieds nickelés dont la France ne peut pas trop s'enorgueillir. Mais enfin bon.
Comment ils sont devenus célèbres, justement? Racontez-nous cette
l'opération,
histoire.
L'affaire du Rainbow Warrior, elle a un nom, il faut lui redonner, c'est l'affaire, l'opération satanique. Hein, nous sommes en 85, c'est au moment où des essais nucléaires vont avoir lieu une fois encore dans le Pacifique, et on sait que les activistes, les écologistes de Greenpeace sont toujours promptes à venir manifester et tenter de s'opposer aux essais nucléaires. Mm-hmm. Alors pour les services français, pour l'armée française bien sûr, hein, les affreux de Greenpeace, il faut absolument les neutraliser. Chaque fois, les services français sont parvenus à neutraliser gentiment les écologistes qui ne sont jamais intervenus sur site. Or, cette fois-ci, on racontera peut-être plus tard pourquoi, mais cette fois-ci, les services ont voulu faire la chose en grand. Pour neutraliser un bateau de Greenpeace, comme ils l'ont fait auparavant, il suffit par exemple de mettre du sucre dans le réservoir, et puis voilà, le bateau reste à
la méthode douce.
La méthode douce. Et cette fois, pour des raisons que j'expliquerai si on en a le temps.
On en a le temps.
On verra
que les services, la DGSE, a souhaité faire une opération qui prouvait la grande valeur de ces unités. Or, on en parle sur un ton un peu comique. Pieds nickelés, c'est vrai, mais il y a eu un mort, faut pas l'oublier.
Bien sûr,
c'est
bien
ce
sûr.
Qui a fait le drame et l'énorme affaire d'État qui s'en est suivie.
Alors justement, combien de personnes les services secrets français envoient en Nouvelle-Zélande?
Alors, on n'a pas tous les détails, mais on estime qu'ils étaient sans doute une bonne trentaine sur place, ce qui fait beaucoup pour un seul bateau.
Et parmi eux, d'ailleurs, il y a le frère d'une personnalité politique.
Personne bien connue.
Dites-nous.
Oui, il y avait le frère de Madame Ségolène Royal, qui était l'un des membres du service action de la DGSE. Ce sont des militaires, pas tous, il y a quelques civils qui sont des honorables correspondants. Bon, c'est la manière de travailler des services, français ou autres. Il y a des agents infiltrés au sein même de Greenpeace. Et puis, il y a l'opération en elle-même, à savoir neutraliser définitivement le bateau.
Alors comment ils s'y prennent, justement?
On s'y prend de la façon suivante. Enfin, quand je dis « on », je n'y étais pas. Rien à voir dans cette histoire.
C'est un « on », il y a de l'empathie dans votre « on », quand même.
Ce sont des nageurs de combat qui, nuitamment, vont aller placer deux charges explosives sur la coque du bateau. Je dis deux charges parce qu'effectivement, ils avaient pensé à tout. Une première modeste devait alerter les gens à bord. C'est ce qui s'est passé. Donc, première explosion, tout le monde fuit, c'est l'alerte. On quitte le navire. Or, il y a un des photographes de Greenpeace, un portugais, qui avait laissé à bord ses appareils photo. Il tenait absolument à les récupérer. Donc, il est rapidement remonté. C'est là qu'a eu lieu la seconde explosion, qui, elle, a véritablement détruit le navire.
Et tué le photographe.
Et le malheureux a trouvé la mort dans la deuxième explosion. Alors ça a suffi à faire, déjà, un scandale.
Est-ce qu'il y a eu autre chose encore?
Il y a eu d'autres erreurs?
Toute l'opération est une erreur. C'est une erreur grandiose. Déjà, l'idée d'avoir voulu agir de la sorte, c'est calamiteux. Surtout, une fois que les services ont opéré, en général, ils se débinent discrètement. Or là, on peut le dire, tout a absolument foiré. Et c'est pourquoi on est aussi bien documenté, c'est qu'à chaque fois, les affaires d'espionnage, on ne les connaît bien que dès lors qu'elles ont été vouées à l'échec. Hein, une bonne opération d'espionnage, ni vous ni moi, nous ne la connaissons. Mmh.
Et donc là, il y a eu des erreurs, qui ne sont pas parties, donc ils se sont fait arrêter. Donc effectivement, on a des espions en pleine lumière, tout ce qu'ils n'aiment pas. Comment on réagit en France le Premier ministre, c'est Laurent Fabius, c'est ça? Alors, le ministre de la Défense, c'est qui déjà?
Les services sont sous la tutelle du, bien évidemment, du président de la République, de la Défense. Donc c'est Charles Hernu qui est ministre de la Défense, Fabius est Premier ministre à l'époque.
Comment ils réagissent?
Alors, dès que les câbles, on imagine, hein, les câbles, les téléx arrivent, tout le monde sait. Ça, c'est un coup des services français. Qui peut faire exploser un bateau de Greenpeace dans le Pacifique? Donc, on sait que c'est les services. Il faudra quelques jours quand même à la police néo-zélandaise pour trouver les fameux époux Turange. Mm-hmm. Donc, les deux qui étaient sous couvert d'un voyage de noces étaient censés repérer les lieux, coordonner la logistique. Or, les deux tourtereaux s'étaient déjà fait repérer et très tôt, l'enquête a prouvé qu'effectivement, il y avait deux suspects qui se baladaient sur le port, etc. On a retrouvé la voiture de location. Donc, on les a très tôt interpellés. Ils avaient des passeports qui étaient faux, mais ça n'a trompé personne. Mmh. Hein, des passeports suisses. Alors, imaginez, vous voyez déjà l'embrouille politique. Nous agissons chez nos alliés, parce qu'à Nouvelle-Zélande, on est en 85, avant la chute du mur, les Néo-Zélandais sont nos alliés. Mmh. Un passeport suisse. On n'a pas demandé à la Suisse.
C'est pas mal non plus.
C'est raté. Et les faux époux Turange, une fois qu'on les interpelle et puis qu'on les incarcère, bon, ils ont quand même gardé quelques papiers sur eux, notamment un numéro de téléphone, qui est un numéro de téléphone de secours de la DGSE. Donc les gars de la police néo-zélandaise, il leur faut pas longtemps pour comprendre. Alors à Paris, imaginez que c'est le branle-bas de combat. On essaye de désactiver le numéro et l'affaire va... grâce aux journalistes, à prendre de l'ampleur jusqu'à la révélation de oui, c'est bien nous.
Et ils finiront par être condamnés par la justice néo-zélandaise. Les dossiers secrets les plus rocambolesques, les agents les plus doués, les transfuges les plus bavards, on vous raconte un siècle d'espionnage ce soir sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
J'ai pas trahi mon pays.
Dans les années 80, un agent du KGB livre des milliers de documents au service secret français.
La curiosité est un vilain défaut.
Matahari, séductrice exotique et espionne. Sa vie est un spectacle.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir, sur RTL, on vous dévoile les secrets d'État avec les affaires d'espionnage qui ont défrayé la chronique depuis un siècle. Oh mon Dieu!
Non, mais c'est pas laconique ce que vous nous dites. C'est bien développé. Et donc, ça a défrayé la chronique.
Je dois vous avouer que j'étais un peu troublée par le Matahari trouvé par André Facetta, que je trouve tout à fait rap.
Cette voix nous a amusés.
Et j'ai réprimé un énorme fou rire. Nous sommes avec l'historien Renaud Tomaso qui publie un bouquin très sérieux et très beau aux éditions Larouche. C'est ce qu'on appelle un livre avec des facsimilés, un beau livre.
Un beau livre.
Qui nous raconte l'histoire de l'espionnage. D'ailleurs, parmi ces espions qui ont marqué l'histoire, il y a Matahari. Matahari, c'est son nom de code, c'est ça?
Ou de scène?
Non, c'est son nom de scène. C'est son nom de scène.
De scène.
Voilà, Matahari, j'entendais tout à l'heure danseuse et espionne. Elle fut d'abord danseuse, avant-guerre. Et c'est au moment où survient la Grande Guerre que Matahari, qui déjà a cessé de plaire en France, elle n'est plus la belle jeune femme lascive qui avait ensorcelé le tout Paris.
C'était quoi son spectacle?
Alors, Matahari se prenait pour une danseuse balinaise, orientale. Donc elle s'effeuillait assez complaisamment devant le tout Paris. Bon, c'était une demi-mondaine.
C'est une Française, Matahari?
Matahari est néerlandaise. Donc c'est ce côté néerlandais, vous savez que la Hollande avait ses colonies, donc c'est ce côté un petit peu Indonésie, Bali, etc. Ça plaisait beaucoup, la mode orientale avant-guerre, c'était très en vogue. Et Matahari a connu son heure de gloire, c'était vraiment une grande dame et une belle femme du tout Paris.
Quel était son vrai nom et prénom?
Margaret Zell. si je, on va dire que c'est bien prononcé. Tout le monde la connaissait sous le nom de Matari, qui n'est pas du tout un nom de code. Hein, et quand survient la guerre, Matari, ben, elle est un peu désappointée parce que elle n'est plus en cours à Paris. C'est une femme qui a besoin toujours d'énormément d'argent. Hein, elle vit toujours au crochet de ses amants successifs ou concomitants, je ne sais pas trop. Et en 14, c'est fini pour elle. Hein, il faut qu'elle aille se rhabiller, c'est ce qu'on lui a dit. Elle trouve quelques... elle approche de la quarantaine. Il y en a d'autres qui poussent derrière pour prendre la place.
Donc l'espionnage, normal. C'est une reconversion.
Alors,
en quelque
c'est
sorte.
Une reconversion. Oui, c'est une espionne malgré elle. C'est un peu là, c'est raté pour elle.
Qui la recrute, Matahari?
Alors, c'est la grande difficulté. Matahari. Elle a trouvé des cachets en Allemagne. Il n'y a que là qu'elle a trouvé. Mais en Allemagne, on ne veut plus d'elle, puisqu'elle est française. Donc, à partir de 14, tout le monde se méfie. Alors, elle voit bien que l'Allemagne ne veut pas d'elle. Elle devait jouer, je ne sais pas dans quel théâtre. Bon, elle a besoin d'argent. Elle décide de rentrer à Paris, parce que là, elle sait qu'elle va bien trouver 2-3 soupirants pour l'aider à vivre. Et elle revient par bateau, mais là, les Anglais interceptent tout cela, et puis les Anglais, c'est pas à eux qu'on va apprendre l'espionnage. Donc, cette femme qui vient d'Allemagne, mais qui connaît le tout Paris, elle a eu parmi ses amants quelques ministres ou parlementaires, donc forcément, les services de contre-espionnage vont surveiller les allées et venues de ce genre de personnages. Et elle va être approchée par les services allemands, qui vont très vite... se demander ce qu'ils vont pouvoir en faire, parce que la malheureuse Matahari est incapable d'être espionne. Hein. On essaye de lui apprendre le béaba du métier, mais elle ne retient rien.
C'est quoi le béaba du métier?
C'est les codes, c'est surtout les messages chiffrés, savoir coder un message, savoir utiliser quelques encres sympathiques. Hein. Y a des choses qu'elle sait bien faire, approcher des hommes bien en vue et se glisser le plus proche d'eux.
Elle sait les faire parler.
Ça, elle sait faire. Ça, elle a toujours su faire. Les faire parler, elle n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et toujours est-il qu'on la renvoie en France. Elle est engagée par les services allemands. On lui donne un nom de code, mais la responsable des services allemands a bien dit « Je me demande bien ce qu'on va faire de cette pauvre femme. » Et quand elle rentre en France, elle cesse de d'abord trouver quelqu'un pour lui permettre de vivre. Elle a déjà oublié qu'elle avait été recrutée. Je le dis en m'en moquant un petit peu, mais c'est vraiment une espionne au petit pied.
Oui, c'est ça. Et elle finira par être le jouet des concurrences entre les services.
C'est une marionnette entre les services. Ouais. Donc elle va être espionne contre espionne. Elle ne sera plus même si elle travaille pour les Allemands ou les Français. Mmh. Parce que les Français, bien sûr, eux, ne vont pas tarder à la recruter aussi.
Mais ça va se terminer tragiquement pour elle.
Ça va se terminer tragiquement parce que on ne sait pas bien qui veut la sacrifier. Il n'y a rien de mieux pour un service d'espionnage que d'envoyer dans les pattes de l'ennemi un pseudo-espion qui sera en fait un contre-espion dont on se demande s'il n'est pas un espion triple.
Donc, c'est un roman de
la Matahari. Alors, Matahari, dans tout ça, elle ne comprend rien.
Oui.
Donc, effectivement, elle arrive à approcher quelques dignitaires comme des diplomates allemands. Et les services français, ensuite, lui demandent allez, dites-nous un petit peu ce que vous avez appris. Matahari ne veut rien dire parce qu'elle a cru comprendre qu'on lui donnerait bien le million de francs qu'elle a exigé. Et tout ce qu'elle souhaite, elle, c'est de l'argent. Alors, les services français, ça n'a pas changé, non pas un sou. Donc, il n'est pas question de lui donner un million de francs. Alors, elle a pas grand-chose à dire, sauf des informations que les services connaissent depuis longtemps. Mmh. Donc, on comprend tout de suite que ce sont les services allemands qui lui filent de fausses informations parce qu'ils ont bien compris qu'elle travaillait aussi pour les services français. La malheureuse ne comprend rien. On aurait pu en rester là. Or, en 1917, la guerre est un tournant. Hein, c'est l'année décisive. Les Allemands sont sur le point de l'emporter, à moins que ce soit nous, les Alliés. Hein, on ne sait pas bien. En 1917, il y a l'offensive du chemin des dames qui est terrible. Là, les tensions sont extrêmes. Et Matahari, on va vouloir faire un exemple, parce qu'il faut montrer à l'opinion publique qu'on ne s'en laisse pas compter par l'ennemi.
Et donc la France va la juger.
Et la France va tout de suite, alors qu'elle est à Paris dans ses hôtels, là, et tout de suite on l'arrête. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, mais on va montrer à l'opinion qu'on est capable d'arrêter une espionne et la juger.
Et elle sera fusillée.
Et elle sera d'autant mieux fusillée que, pour l'opinion, elle n'est pas n'importe qui. Mmh. Donc c'est quand même cette danseuse étrangère qui a, alors que nous on souffre, elle auparavant, elle menait la grande vie. Donc l'opinion se venge. Et après un procès où les pièces sont flagrantes, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. On veut montrer à l'opinion publique qu'on est ferme dans nos décisions et nos convictions. Elle sera fusillée sans rien dire.
Elle restera un symbole.
Et depuis, elle est demeurée un symbole, effectivement, non pas de l'espionnage, comme on le croit trop souvent, mais bien un symbole des turpitudes des services.
C'est ça. d'autres histoires et d'autres noms à découvrir, parce que Mata Hari, tout le monde la connaît, mais l'Hermine Rouge, la chatte ou le code Enigma, on continue de vous raconter des histoires d'espions. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est curieux ce soir, avec James Bond évidemment, de découvrir le destin des espions grâce à l'historien Renaud Tomaso. Alors on a plein d'histoires, il faut choisir. Allez, on va choisir le code Enigma, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'était censé, alors ça démarre avant, hein, mais c'était censé quoi ? Crypter tous les messages des services secrets allemands, c'est
alors,
ça ?
Alors c'est une affaire très bien connue, parce que c'est pas le code Enigma, c'est la machine Enigma. C'est la fameuse machine allemande qui permettait de crypter les messages, et grâce à cette machine, l'armée allemande a pu sembler assez invincible. On sait qu'aujourd'hui, c'est les Anglais qui ont réussi à casser le code, et le fameux Alan Turing qui est l'inventeur de l'ordinateur. Mmh. On sait que les Polonais ont eu leur part dans l'affaire, parce qu'ils ont été les premiers inquiétés à voir les Allemands être inaudibles par les services secrets. Or, il y a tout un volet de l'affaire qui est un volet français, puisque pour pouvoir casser les codes de la machine Enigma, il a fallu qu'un Allemand vienne livrer les informations à la France. Et cela, quelques années avant le début de la Seconde Guerre.
Alors, qui est cet Allemand, justement ?
Alors, Hans Thilo Schmidt, c'est son nom, était un officier allemand de la Première Guerre mondiale. Il a été blessé, il n'avait pas retrouvé sa place dans la société, il avait besoin d'argent. Son frère avait beaucoup mieux réussi, était un officier supérieur. Et il avait retrouvé à se recaser dans le service du chiffre allemand, donc service très sensible, puisqu'il avait accès à pas mal d'informations. Et il a décidé, pour de l'argent, de livrer des informations à la France. Donc là, il y a les services, il y a eu des rencontres en Belgique, donc tout ça, on est bien renseigné là-dessus.
Et on est à quelle époque ? Ça commence
quand ? On est dans les années, donc on est au début des années 30.
Donc on est bien avant. Et il va livrer de bonnes informations à la France pendant
plusieurs années. On s'est aperçu en faisant le debriefing et avec les archives dont on dispose, on sait par exemple que les différentes étapes qui ont mené au déclenchement de la guerre, c'est-à-dire à partir du moment où Hitler, dès lors qu'il est au pouvoir, n'a de cesse de déchirer tous les accords passés, remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, etc. Tout cela, Hans Thilo Schmidt nous avait informé là-dessus. Donc la chancellerie était au courant, sauf que les politiciens n'ont pas su en faire bon usage.
Pourquoi ?
Parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'à chaque fois, avec les alliés britanniques, etc., on essayait de trouver d'autres issues. C'est le fameux bluff d'Hitler, jusqu'au dernier moment. Vous savez que jusqu'aux accords de Munich, on a fait une sorte de danse des canards là, diplomatique, qui n'a abouti à rien d'autre qu'à la conflagration. Mais les services étaient parfaitement informés de mille et une choses, dont après, dans les récits historiques, on dira voilà ce qui s'est passé, etc. Nous, on savait tout.
Mais parmi ces infos, il y a donc des infos essentielles.
Il y a des infos essentielles sur la façon dont fonctionne cette fameuse machine, une machine comme une machine à coder, une machine à écrire, mais avec des rotors, etc. Si vous n'avez pas les codes, le code est incassable. Et très tôt, on fait appel à nos alliés polonais. Et là, il y a au service du chiffre polonais, il y a de grands mathématiciens qu'on va mettre au travail. Et dès que l'Allemagne va être envahie, dès que la Pologne, va être envahie par l'Allemagne et la Russie, les Soviétiques, les Polonais vont se réfugier en France. Les mathématiciens vont travailler en France. Et ensuite, ils vont rejoindre les services secrets anglais. Et là, ce sont d'autres mathématiciens anglais, avec les documents qu'on va pouvoir leur fournir, qui vont se mettre à achever le travail. Et pendant presque toute la durée de la guerre, on sait que les Britanniques entendait parfaitement tout ce que les Allemands disaient. Au point, juste une anecdote, au point pour montrer comment les services secrets et l'usage que l'on en fait peuvent être cruels, on l'a vu dans d'autres histoires, il n'y a rien de pire pour un service secret de laisser entendre à l'ennemi qu'on sait, qu'il doit savoir que l'on sait. Et donc, puisqu'on connaissait le code Enigma, il fallait bien ne pas réagir toujours. Et au moment de la bataille d'Angleterre, vous savez, quand les Allemands ont bombardé les villes anglaises, à un moment, Churchill a été parfaitement informé que Coventry allait être bombardé. Donc il suffisait d'évacuer une partie de la population, au moins les enfants. Et Churchill a pris la décision ferme et définitive de n'évacuer personne, serait laissé entendre aux Allemands qu'on savait. Et donc, il y a eu quelques centaines de morts à Coventry pour taire ce que l'on savait.
Et l'on continue de vous révéler les mystères des plus grandes affaires d'espionnage de l'histoire. Par exemple, l'affaire Farwell, où quand un officier du KGB trahit l'URSS et un système qu'il juge pervers et qui récupère les noms des agents russes, et bien la France bien sûr. Restez avec nous, on vous dit tout sur les espions, ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Traître. Je t'ai percé à jour.
Tiens donc.
Tu travailles pour les services secrets français. Tu es OSS 117. Tu as un numéro comme ces vaches que l'on conduit à l'abattoir.
À votre service. Moi aussi, je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas Jamila Narubi, journaliste libanaise en poste à Rome, mais la princesse Altarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk.
Je suis bien la nièce de Farouk, mais il n'est plus roi d'Égypte. Il a été exilé il y a 3 ans par cet infâme Nasser, qui meurt dans d'affreuses souffrances, chien.
Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon.
Mon oncle est roi. Les pharaons régnaient il y a 4000 ans.
Je le sais, ça.
Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi?
Pas envie. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches.
D'accord, je le retire. Viens, Crotal.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Bien, Crotal.
Délicieux.
Oui, c'est très, très bon. On n'a pas pu s'en empêcher, OSS 117.
Je t'ai percé à jour,
OSS 117, alias Jean Dujardin. Surtout qu'il se murmure qu'un troisième opus serait en préparation, on espère. Renaud Tomaso, on parle des vrais espions. OSS 117, ça se passe dans les années 50-60. À cette époque, en France, il y a une vraie affaire d'espionnage avec, c'est quoi? C'est Kennedy qui informe De Gaulle que ses services sont infiltrés par le KGB, c'est ça?
Oui, c'est la plus grande affaire d'espionnage sans doute, mais Hitchcock en a fait un film, un roman aussi apparu, on a tout fait pour l'empêcher de paraître. Un transfuge soviétique arrive aux États-Unis, il est débriefé et puis il lance comme ça des espions de chez nous, il y en a plein à Paris, il y en a plein dans les services de renseignement, il y en a à Matignon, il y en a à l'Élysée. Alors avec ça, donc Kennedy a prévenu De Gaulle.
Parce que bon, de président à président.
De président, voilà, il a fait remettre une lettre manuscrite par un diplomate. Et De Gaulle, bien sûr, a demandé. De Gaulle s'occupe pas trop de l'intendance, lui. Il a demandé à un militaire de trouver un petit peu ce qui se passe. Et alors, ça a mis un souk dans les services parce que forcément, il a fallu que la DGSE était soi-disant infiltrée. Mais alors, c'est le contre-espionnage, la DST, qui a dû enquêter sur les collègues de la DGSE.
Bonne
les
ambiance.
Gars sont partis aux États-Unis pour débriefer à leur tour le transfuge.
Il n'y avait pas de liste d'espions, il n'y avait pas de
nom.
Non,
il y avait
vraiment,
un nom
c'était
de
un
code.
Peu vague.
Il y avait le fameux nom de code, hein, Colombine. L'opération Saphir avec peut-être à sa tête un certain Colombine. Débrouillez-vous avec ça. Et donc dans le milieu des services secrets, dès lors qu'on est soupçonné, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'en va. De toute façon, on vous met à la porte. Donc les gars de la DST ont enquêté sur leurs collègues de la DGSE, enfin du SDEC à l'époque, et on a tout de suite trouvé des gens qui, au moment de la libération, dans les premières années, alors qu'ils avaient été dans la résistance, avaient pu avoir des attitudes douteuses. Donc ceux-là, on les a mis sur la touche. Donc les services ont été éprouvés par cette période. On n'a bien sûr jamais trouvé Colombine, on a parlé d'éminence grise, on pensait notamment à Jacques Foccart, on évoquait certains ministres qui auraient pu être des agents du KGB.
Jacques Foccart, c'était le monsieur Afrique du général
Jacques
de Gaulle.
Jacques Foccart était le monsieur, et a été à un moment le patron officieux, des services secrets en Afrique.
Donc aucune preuve de l'existence de ce réseau Saphir.
Peut-être
réseau,
une manipulation du coup.
Alors bien évidemment, un autre transfuge quelques années après a été à son tour débriefé et lui se faisait fort de prouver que le premier transfuge était un faux transfuge justement envoyé pour délivrer de fausses informations. Sauf que dans leur enquête, les agents du contre-espionnage ont quand même mis la main sur celui qui reste à nos jours dans l'histoire de France, le plus grand espion, puisqu'ils ont mis la main sur un haut fonctionnaire français qui travaillait à l'OTAN, et l'OTAN à ce moment-là était encore à Paris. Et ce monsieur, ils l'ont arrêté après une affaire un peu rocambolesque, ils le suivaient comme d'autres pour voir si ça pouvait pas être un agent. Et ils l'ont suivi dans un petit patelin des Yvelines. C'était un homme très cultivé, il pensait qu'il allait visiter les églises. Et en fait, on a vu arriver une voiture de l'ambassade soviétique. Donc les gars ont tout de suite compris. Le lendemain, ils sont allés l'arrêter à son bureau. Et dans l'heure qui a suivi, le gars a dit « Je veux un curé, je veux me confesser ». On est dans les années 60 et le gars a dit « Depuis 1944, c'était Alger, je travaille pour les soviétiques ». Donc le gars, ça faisait des années qu'il travaillait en tant que haut fonctionnaire. Il a été condamné à mort. Puis, gracié. Puis finalement, n'a fait que quelques années de prison. Il s'appelle Georges Pack. On a oublié l'affaire, on l'évoque dans le livre. On a mis quelques facsimilés, des documents qui prouvent cette histoire. Alors Georges Pompidou l'a gracié, mais c'était un condisciple de Normal Sup. Mais ce gars a bel et bien été un espion des Soviétiques.
Et alors du coup, je repose la question, est-ce que ça peut être une manipulation, toute cette histoire des services américains ou soviétiques pour désorganiser? Vous disiez que ça
a complètement désorganisé les services français. Georges Pack a bien été un espion, puisque lui... Oui. L'a avoué tout de suite. Par contre, l'affaire Saphir, on ne saura jamais, mais tout le monde pense, parce que celui qui a mis un petit peu le souk là-dedans en livrant, en plus ça ne se fait pas normalement, mais celui qui a livré des infos...
Le souk, vous dites ça pour SS-117, c'est ça
Voilà. c'était un agent français à Washington. Donc celui-là voulait certainement se venger de quelques mauvais coups qu'on lui avait fait. Mais attends, qu'est-ce que les Américains... On était à une époque aussi où De Gaulle est en train de donner des coups de pied dans la fourmilière et a bien dit, moi l'OTAN, je ne vais pas y rester longtemps. Hein. Et donc, est-ce que les Américains n'ont pas voulu faire un mauvais coup aux Français? Ça, on ne le saura jamais, mais c'est toujours dans ces affaires-là, c'est du billard à 4 ou 5 bandes. Mmh. Mais on n'en a jamais la véritable solution.
Et il y a beaucoup d'affaires comme celle-là dans votre livre, Un siècle d'espionnage, publié chez Larousse. Merci beaucoup Bernard Thomas, Renaud Tomasso. On n'a pas parlé de l'Hermine Rouge, on n'a pas parlé de l'affaire Farewell, mais justement, elles sont à découvrir dans le livre. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.